Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irungmushinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois le révérend pasteur Hubert Miimi Muawa Lumingu, ancien directeur général de la Société nationale des hydrocarbures au Congo Sona Hydroc, ancien directeur général du Bureau d'études techniques des constructions GCT. Actuellement, il est administrateur des studios Sangomalamu, Radio et Télévision, une association sans but lucratif, et président international du réseau de transformation et d'intercession pour les familles RTFANCI. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Révérend pasteur Hubert Miimi, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Comment allez-vous?
Très bien.
Le 8 février 2025, vous avez totalisé 70 ans, joyeux anniversaire.
Merci bien, ça c'est une bonne surprise, vous étiez au courant.
Comment se sent-on à 70 ans?
On est heureux d'avoir vécu toutes ces années. On rend grâce à Dieu. Mais en même temps, c'est l'année de bilan qui commence. Peut-être on amorce les activités du soir de notre vie. On est en train d'examiner ce qu'on a semé. Et on vit les résultats de ce qu'on a semé.
Et certains disent qu'on commence déjà à trembler devant la prochaine mort.
Non, je pense que moi je suis heureux d'affronter la mort.
Pourquoi?
Comme la mort approche, je suis heureux et je me prépare. Et je donne des conseils aux autres. Comment bien passer ses temps? Comment vivre heureux sur la terre? Comment bien préparer les générations futures.
Tout à fait. On va y revenir avec force détail. Vous avez plusieurs casquettes, hein, on les verra au cours de cette émission. Commençons par la première. De juillet 2017 à 2022, vous travaillez comme directeur général de la Société nationale des hydrocarbures au Congo, Sona Hydroc. Vous avez une grande expérience dans les domaines des hydrocarbures, hein. Mais on dit souvent des entreprises congolaises qu'elles sont des canards boiteux. Est-ce le cas pour la Sona Hydroc?
D'une manière générale, je dirais que les entreprises de portefeuille, les entreprises vont mal, c'est tout à fait normal. C'est l'environnement, c'est les cadres qui ne s'y prêtent pas pour qu'elles puissent bien se développer. Mais je dirais aussi que ce ne sont pas les entreprises qui sont mauvaises. Bien qu'il y a beaucoup de réformes qui doivent être mises en place, mais ces réformes dépendent des hommes. À mon avis, je pense que ce ne sont pas les entreprises qui sont réellement en crise, c'est nous les hommes qui dirigeons qui sommes en crise.
Et en arrivant à la Sona Hydroc, vous l'avez trouvé dans quel état? Et vous l'avez laissé dans quel état aussi?
C'était Cohydro avant moi. Avant moi, ce n'était pas la Sona Hydroc, c'est moi qui ai commencé la Sona Hydroc. Ça faisait partie des réformes. J'ai trouvé une société réellement en difficulté, en crise, avec de grandes dettes. Je me rappelle encore, j'ai trouvé la société à moins 14 millions de dollars avec beaucoup d'impayements de personnel. Ça ne marchait pas. Pratiquement, le personnel était par terre, à la maison. Ça ne marchait pas. Peut-être c'est pour ça qu'on m'a donné cette entreprise. Pour...
Parce que ça ne marchait pas.
Si parce que ça ne marchait pas, si ça marchait, je ne suis pas convaincu qu'on aurait eu besoin de moi là-bas. Je pourrais dire aussi que c'était la volonté de Dieu, puisqu'une fois dedans, il y a des intercesseurs qui m'ont dit qu'ils ont beaucoup prié pour que Dieu leur donne quelqu'un qui pourrait leur venir en aide. Et Dieu a écouté leurs prières. Je me suis retrouvé là. Je ne me suis pas contenté à vivre seulement les spirituels ou quoi. Non, non, non. Je pense que j'ai essayé de mettre en place un système que Dieu m'a inspiré lui-même.
Lequel?
Peut-être que je ne l'ai jamais dit, mais
ah oui,
réalité,
c'est l'occasion d'en parler.
La réalité, avant que je ne sois là, Dieu m'avait inspiré quelque chose. Ça m'a étonné d'ailleurs. En décembre 2016, je devais prêcher. Et quand je me préparais pour la prédication, j'entends comme ça à mes oreilles, comment sortir une entreprise en crise. Le secret pour sortir une entreprise en crise. Et puis je me suis mis à noter, à noter, à noter, à noter. Et arrivé en janvier 2017... On m'a confié la gestion des studios Sangomalam, qui était aussi en crise. Alors pour moi, c'est là où je devrais mettre en pratique. Effectivement, c'était ma pépinière. En 6 mois, j'ai mis exactement en pratique ce que le Seigneur m'a dit.
Alors concrètement, c'était quoi? Donnez-nous le secret.
En 6 mois, il y a eu le résultat. Et en juillet 2017, J'étais nommé directeur général à Sonairo. J'ai eu la grâce d'avoir tout ce temps-là de combiner les deux casquettes. Être directeur général à Sonairo, directeur général des studios Sangomaram. Le secret, je pense que là, c'est la présence de Dieu d'abord. La présence de Dieu, l'intégrité, l'honnêteté et la priorisation de l'être humain. C'est-à-dire placer l'homme à la première place. Ça fait mal de trouver dans une société plus de 100 personnes qui devraient aller à la retraite, qui étaient dans les salaires d'attente. Il y en a même qui étaient décédés. Plus de 10 ans, ils ne touchent pas l'air de compte final. Ça fait mal de trouver une structure avec une vision claire, avec un appel clair, l'objet social clair, mais on ne permet pas à cette structure de vivre de son objet social. C'est ça la réalité de nos entreprises, d'une manière générale.
Et vous, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau?
Bon, je ne peux pas dire exactement ce que Dieu m'a dit ici, puisqu'il y en a qui diront que... c'est le pasteur qui parle et ils ne croiront pas. Mais tout ce que je peux dire, je me suis mis d'abord à l'écoute. La première des choses, je rends grâce à Dieu qui m'a permis de rencontrer les matelots. Je suis descendu très bas. Je suis allé voir les ouvriers qui étaient au bord d'un bateau en panne. Je regarde, mais rien ne marche, le bateau en panne. On n'importe pas, on ne produit pas. Puisque dans la paix de la Sonaïdo, il y a aussi l'exploitation, l'extraction du pétrole du Congo. Les banques de données, on était en train de mettre en place. Mais quoi faire? Ou par où commencer? Alors ces gens-là m'ont donné un secret. Que patron, tu es le premier à venir nous visiter. Tous les autres sont perchés là très haut. Comme tu es venu ici, nous te disons par où commencer. Et même, je ne lui ai pas posé la question. Je commence par nous acheter le moteur Baudouin, place dans ces bateaux. Quand ces bateaux, puisque dans l'objet social, cette société doit aussi faire les transports, c'est-à-dire prendre les produits pétroliers à Kinshasa, amener à Ilebo pour le Kasaï, amener à Kisangani, amener jusqu'au Centrafrique, et il y a trois bateaux qui étaient en panne. Et il me dit, en faisant la logistique, puisqu'il y a aussi les rôles, ces rôles-là, il y a CEP et la Sonaïdroc qui jouent ce rôle aussi de logistique, en transportant, ça te donnera au moins l'argent pour payer les personnels. Il dit, Ambo, oui. J'ai goûté. Je n'avais pas réagi. Je rentre au bureau, ça a été dit, c'est à ma honte. Je pose la question au cadre, au directeur, à la première réunion, pourquoi ces bateaux ne tournent pas? Non, il y a... les moteurs sont en panne. Ça coûte combien? Puisque là, les ouvriers m'ont dit, placer deux moteurs. Je dis, bon, un moteur Baudouin, comme c'est 600 chez vous, 600 000 euros par moteur, donc deux moteurs me coûteraient combien?
$1,200,000.
Et puis tu trouves une société à moins 14 000. J'ai pris une scène. Et puis un jour, j'ai rencontré un monsieur, de Chanik, il était général. On causait avec lui. Il dit que je suis venu, j'ai vu que le bateau est là. Parce que oui, votre bateau traîne là-bas, vos bateaux, bon. D'ailleurs, vous devez donner les frais de chômage, et ça, c'est entreposé depuis longtemps. Elle dit, mais dis-moi un peu, je dois placer deux moteurs, ça coûte combien? Ça va t'étonner. Il me dira, un moteur Baudouin, rendu Kinshasa, de cette capacité de 600 chez vous, 170 000 euros par avion, 125 000 euros par bateau.
C'est pas vrai. De 600 000 euros à 120 000.
Je me suis levé un peu, dit, monsieur, répète un peu. Il a répété. Je dis, ok, je commande deux. Je te donnerai l'argent dès le premier tour au voyage. Il a accepté. J'ai commencé à remettre comme ça les choses en place. Vois un peu le choc. C'est ça la gestion de nos entreprises. Donc je ne vais pas loin, je m'arrête pas.
Alors, vous avez effectué plusieurs missions pertinentes, hein. Février 2022, mission à Abu Dhabi pour négocier la fourniture massive en RDC avec ADNOC. Janvier 2022, mission de la commission aval pétrolier entre l'Angola et la RDC pour le commerce transfrontalier des produits pétroliers. 2021, négociation sur l'exploitation commune du pétrole à la frontière Angola-RDC. 2021, effectuer une mission officielle à Doha avec la délégation du chef de l'État, président de la République. Couverture de l'audience accordée par le chef de l'État au ministre qatari du pétrole et gaz. 2017-2021, participation aux réunions des conseils d'administration et assemblée générale de Perenco en RDC, en France et à Dubaï. Vous avez effectué comme ça plusieurs missions. Vous l'avez dit tout à l'heure, la RDC produit du pétrole, mais pourquoi on en importe toujours?
Bon, c'est pas si la RDC produit assez du pétrole. Ça, c'est encore un problème. Nous sommes obligés d'importer d'abord puisque nous n'avons pas de brut en quantité
suffisante.
Ça, c'est la première chose. La société Perenco exploite, extrait, mais c'est pas suffisant. Ça ne dépasse pas, je pense, même 24 000
barils.
Ça ne dépasse pas, En plus, nous n'avons pas une raffinerie capable aussi de transformer, de raffiner la qualité de notre brut. Vous connaissez l'histoire de notre raffinerie, il y a plus de 30 ans, ça, c'est resté une histoire. On doit importer, on n'a pas le choix.
Alors, vous parliez tout à l'heure de la Sonaïdroc, la manière dont vous l'avez relevée et tout, mais c'est quoi le véritable problème des entreprises au Congo? C'est l'homme, ce sont les ressources, c'est quoi?
C'est complexe. Le premier problème, c'est l'homme. Il faut régénérer l'homme congolais.
Le formater.
Le réformater. C'est l'homme, et à tous les niveaux. Je vous dis, là, j'ai trouvé les ouvriers clochardisés, mais c'est eux qui avaient la solution. Mais quand on commençait à trouver les solutions, à progresser, qui ont bloqué encore? Ce sont les cadres. Hein? Et ces cadres-là sont influencés par qui? Par tous ceux qui ont mis un système de haute, toi que je m'y mette. Ils instrumentalisent les syndicats, ils instrumentalisent tous les systèmes déstabilisants. Et si nous continuons comme ça dans toutes les entreprises, il y aura des cycles de recommencement et il n'y aura pas continuité. Je peux dire même que c'est dans toutes les entreprises, je pense à un moment, malgré tous les efforts que Copirep fait pour les réformes, tous les efforts que même le ministère des portefeuilles fait pour...
On a eu récemment les états généraux des entreprises du portefeuille.
Il faut du courage. Il faut du courage pour placer les hommes crédibles, d'abord. Par homme crédible, je vois la conjugaison de la compétence et de l'intégrité. Celui qui est compétent, s'il n'est pas intègre, ça ne marchera pas. Et celui qui est intègre, même s'il vient de l'église et on prie en langue et Dieu lui donne toutes les stratégies, s'il n'est pas compétent, ça ne marchera pas. Donc pour moi, la crédibilité part de quelqu'un qui est compétent et non corruptible, part de quelqu'un qui est compétent et qui a la rigueur, part de quelqu'un qui est compétent et qui a aussi la maîtrise de soi, qui est quelqu'un qui n'est pas influencé facilement par un environnement pollué.
Le grand témoin.
Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois le révérend pasteur Hubert Miimi Muawa Lumingu, ancien directeur général de la Société nationale des hydrocarbures au Congo Sonaïdroc, ancien directeur général du Bureau d'études techniques des constructions GCT. Actuellement, il est administrateur des studios Sangomalamu, radio et télévision, une association sans but lucratif, et président international du réseau de transformation et d'intercession pour les familles Ertifensib. En 2010, révérend pasteur Hubert Miimi, vous travaillez comme ingénieur civil du projet Zone économique spéciale à la CASES, où vous occupez les fonctions de coordinateur adjoint. 2016, directeur technique à l'Agence des zones économiques. Mai 2013, vous faites la promotion des zones économiques spéciales pilote Maluku à Madrid, en Espagne. Aujourd'hui, la zone économique spéciale de Maluku est effective. Qu'est-ce que, selon vous, les zones économiques peuvent apporter à la RDC?
Ah, ça fait ma joie. J'étais le directeur technique de ce projet. En tant que directeur technique, en passant, je salue mon frère Hollande, qui est maintenant le directeur général, puisqu'on avait commencé avec lui. On a été recruté en 2008 par concours il y a de la Banque mondiale avec lui. La Banque mondiale nous a préparé pendant longtemps pour ce projet. C'est au moins l'un de ces projets qui peut me faire...
Qui s'est concrétisé.
Qui me fait la joie. qui me fait la joie, bien que ça a beaucoup traîné, puisque par définition, une zone économique spéciale, c'est une entité dont il peut périmètre bien délimité. Au sein de ce périmètre, on met des conditions préférentielles. Avec ces conditions préférentielles, on peut attirer les investisseurs. Donc, on met les conditions préférentielles pour créer l'attractivité des investisseurs pour qu'ils viennent s'implanter. Pour la zone des Maluku, l'objectif était d'abord pour la transformation des matières, des produits agricoles, même le bois, etc. Mais du moins, ça s'est concrétisé. Je vois aujourd'hui la production des faïences.
Des carreaux, des faïences.
Oh, ça, c'est à féliciter. J'étais heureux de voir le président de la République aller inaugurer ça. Et malheureusement, j'étais à l'étranger. Je pouvais bien être là. Vraiment, là, au moins, je félicite le chef de l'État puisqu'il a poussé ça. Avant lui, en tout cas, ça a trop piétiné. Je pense qu'il faut accélérer. Il faut qu'il y ait plusieurs zones économiques au pays, créer ces périmètres délimités avec possibilité d'attractivité.
Des pôles de développement.
Oui, ça va créer l'emploi. Ça peut créer, si on met 32 entreprises, par exemple, dans cette zone de Maluku, tu sais ce que ça peut créer comme employés et comment ça peut même impacter l'environnement de Maluku. Le développement du pays doit partir de ça. Dubaï, c'est une grande zone économique. Benguanzou, ce sont des grandes zones économiques. Les États-Unis, combien de zones économiques? Le Canada, combien de zones économiques?
Et la RDC a tous les atouts pour ça.
Oui. Mais ici, en face aussi à Brazzaville, il y a des zones économiques. Ceux qui ont commencé même après nous ont avancé. Le Gabon a commencé après nous. Ils ont fait la zone économique de Ngok basée sur les bois, la transformation du bois, jusqu'à tel point que je pense qu'ils ont même interdit l'exportation du bois, des grumes non transformés. Tout ce qui est bois non transformé, ça ne sort pas. Pourquoi? Puisque dans leur zone économique, il y a possibilité de transformer les bois. Pourquoi on doit importer les déchets de bois de la Chine comme porte, comme c'est pas faux plafond? Alors que nous avons le bois massif ici que nous devons transformer. Pourquoi ne pas mettre à la disposition des scieries au Congo les meilleurs bois que nous avons?
Alors avant de passer à une autre étape de votre vie, révérend Hubert Miyimi, vous avez passé près de 10 ans dans le système de la Banque mondiale. On sait que c'est des systèmes rigoureux, avec qui demandent beaucoup de choses, beaucoup d'engagement. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre passage dans ce système?
D'abord la rigueur dans le travail, et puis la redevabilité. Je me rappelle, dans le système, chaque 6 mois, on doit évaluer. Chaque 6 mois, on doit évaluer. Chaque fin du mois, tu dois faire les rapports de ce que tu as fait. Parce qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, on peut demander à chacun de s'auto-évaluer et de faire... Avant de mériter le salaire, tu dis qu'est-ce que tu as fait pendant le mois pour que tu mérites le salaire. Mais tu vas chercher le problème. D'abord, rédiger les rapports, pour beaucoup, c'est un problème. Et puis, chaque six mois, on signait les contrats renouvelables de 6 mois. Donc, après 6 mois, tu peux partir. Mais cela pousse à bien travailler. Cela motive à devenir performant et à être assidu. Et cette rigueur-là fait qu'on reste quand même dans... si tu veux rester dans le système, si tu veux te maintenir, tu dois être compétent et tu dois bien travailler. Là, au moins, j'ai retenu beaucoup de choses. Et en plus, c'est le système de mise à niveau. Beaucoup de formations. J'ai visité plusieurs pays pour aller dans les ateliers, aller dans les conférences, Et ça vous met à niveau.
De manière permanente.
Oui, de manière permanente. Ça, j'ai retiré ça. Et puis aussi les carnets d'adresse de plusieurs leaders, de plusieurs responsables. Ça permet, mais aussi, je pense, c'est la manière dont on doit aiguiser ses compétences et la manière de voir les choses diffère quand on est dans ce système. Évidemment, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Mais je crois que nous avons à copier dans nos entreprises, si on peut mettre ça comme critère de performance, l'auto-évaluation. Bon, les gens ne s'auto-évaluent pas. Tu sais comment ça se passe. Tu es DG, tu as la pression de la famille, il faut engager les gens de la famille sans compétence, et tu as la pression pour certains de leurs partis politiques, tu as la pression
des amis et connaissances,
la pression des parrains, tout ça. Tout cela vient diluer vraiment disons, la consistance. On travaille dans un environnement non consistant. On travaille dans un environnement dans lequel je peux dire la normale est devenue normale. On ne peut pas se développer si la normale est devenue normale.
Quand vous êtes honnête, tout le monde vous regarde bizarrement.
Ah oui, si tout ne faut pas dire non à une sollicitation.
Alors, de janvier 2017 à ce jour, vous prestez comme administrateur de l'ASBL Studio Sangomalamu, radio et télé. On se souvient, notamment pour les Kinois, que la radio Sangomalamu est l'une des premières radios chrétiennes qui a émergé ici et qui a eu beaucoup de succès à un moment. Mais beaucoup d'observateurs pensent que cette radio, qui aurait dû être très loin aujourd'hui, n'a pas vraiment beaucoup évolué, évoquant des problèmes de gestion, d'organisation. Quelle est votre réponse à ce sujet?
Effectivement, il faut voir le contexte du départ. Au départ, aux années 94, quand le Sangomalamu a commencé, c'était l'unique radio chrétienne. Et il y avait un rouement, c'était tout à fait normal. Quand on n'a pas d'autres, on s'est contente de ça. Il y avait les monopoles, effectivement, ça cartonnait, c'est tout à fait normal, ça cartonnait. À l'époque, avec le directeur général Fouti, ça marchait, je les salue en passant, c'était très bien. Et avec le temps, en 80, je pense, 17-18, il y a eu feu, la radio a brûlé. De la cendre de ce qui a brûlé, les Kinois ont pris leurs responsabilités pour mettre les moyens. Et de la cendre, on a reçu les moyens pour renouveler l'émetteur radio, acheter aussi l'émetteur pour la télévision, et acheter même l'espace qui est là. Et ça a continué jusqu'aux années 2016. Mais je pense qu'à un moment, il y a eu quand même un redressement, un souci de redressement. Un souci de modernisation. Aujourd'hui, je pense, si vous partez à la radio Sangomalamu, vous verrez un bâtiment viable, vous verrez les efforts qui se sont, les efforts fournis pour que cette chaîne de télévision puisse encore briller malgré que l'environnement n'est plus le même. On est maintenant dans un environnement pluriel.
Concurrentiel.
Où il y a plus de 400 chaînes de radio et je ne sais pas combien de radios chrétiennes. Alors, émerger dans cet environnement a beaucoup d'exigences. Il y a l'exigence qualité, il y a l'exigence technique, il y a l'exigence de personnel. Et il faut maintenir encore ce personnel. Je pense que c'est l'une des rares chaînes de télévision et radio qui doit avoir, cette chaîne à un personnel bien traité, un personnel pour lequel qui est pris en charge, si je peux dire, qui sont payés régulièrement, un personnel qui n'a pas beaucoup à se plaindre, malgré qu'ils ne sont pas payés aussi comme on le croirait. Mais la réalité, il y a la grâce de Dieu dans cette chaîne. Il y a vraiment la grâce de Dieu et cette chaîne est une bénédiction pour notre pays actuellement. C'est une bénédiction pour les nations, puisque avec l'apport de Canal+, et tout ce qui est plateforme de médias actuellement, On peut recevoir, on peut Canal Plus, disons, Shamalamu dans plusieurs pays. Cela étant, je pense que l'évaluation que tu fais de dire que ça, c'est relatif ce que tu dis. À mon avis, je pense que Shamalamu est à sa place, Shamalamu joue son rôle. C'est l'unique chaîne qui a l'opinion sur Yaya Kinshasa. Combien de chaînes peuvent, disons, réunir autant de personnes chaque premier dimanche du mois, comme ça se fait à Kinshasa? Allez à la cathédrale, vous verrez chaque premier dimanche du mois, il y a ce qu'on nous appelons les Bana Notre Père.
Et tous les 31 décembre.
Et tous les 31 décembre, je salue tous les Bana Notre Père et surtout les partenaires de Shamalamu qui consentent beaucoup de sacrifices pour maintenir cette chaîne qui ne reçoit rien de l'extérieur et qui ne vivent que par la grâce de Dieu. Et c'est une chaîne qui n'appartient pas à un individu, c'est une chaîne qui appartient au Bana Notre Père.
Alors, vous êtes président international du réseau de transformation et d'intercession pour les familles RTIF. La RDC, pays à majorité chrétienne ou chrétien, mais où on parle de corruption, dans les indices de corruption, la RDC est toujours parmi les derniers pays. On parle de détournement qu'en termes de millions, les développements peinent à décoller, le pays stagne, pour certains, et même vraiment dans un état de coma ou de mort accélérée. La religion n'est-elle pas l'opium du peuple en RDC? C'est à tous les coins de rue qu'on a une église, qu'on a des églises, devient pasteur, devient prophète, apôtre, archipape, qui veut.
Laisse-moi respirer avant de répondre.
Je vous en prie.
À cette grande question, comment faire une corrélation entre la spiritualité et la multiplicité des, la multitude des églises.
Et le développement.
Et le développement, pas tellement le développement, disons, la putréfaction, si je peux dire, l'indice lié à la corruption, hein, 80% des chrétiens, et puis le pays le plus corrompu, 80% des chrétiens, l'un des pays les plus pauvres, pays riche, pays pauvre, riche en potentiel,
pauvre en réalité.
Pauvre en réalité. Je pense qu'il y a la conjonction de plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le facteur que vous dites là, d'ailleurs, c'est une distraction. Au contraire, l'Église du Congo est dans une phase de croissance et de maturation. C'est tout à fait normal.
Comment ça?
Il y a, aux années 80, lors des grands réveils, de l'arrivée de l'évangélisation massive telle que s'est faite avec les Campus pour Christ, les études bibliques menées par la lecture de la Bible, le groupe biblique universitaire, il y a eu la mise en place d'un certain nombre de leaders sur le plan qualité. Je dis bien sûr le plan qualité. Et c'est là où je veux dire, aux années 82, nous avons mis en place une chaîne d'intégrité. Déjà, avec des messages du genre, le rôle de l'intellectuel chrétien dans une société en crise. Et moi, je suis de cette moule-là, où on croyait vraiment que, en croyant en Dieu, il y allait d'être de nature, des faveurs partout. Il y a des porteurs de faveurs s'ils sont dans la présence de Dieu. Nous prenons l'exemple de Joseph, le fils de Jacob, hein, qui était porteur de grâce, qui a traversé les frontières, même au niveau de l'Égypte, de la maison de son père à la maison de Potiphar, de la maison de Potiphar à la prison, de la prison à la maison de Pharaon. La grâce l'a accompagné et la présence de Dieu en lui a fait tout réussir. Donc, je suis de cette conviction-là. Je suis convaincu que si effectivement l'Église mettait en place plusieurs systèmes d'enseignement des disciples, puisque pour le moment, le dérapage vient du fait qu'à la place de former les disciples, beaucoup se contentent à former des fanatiques et non les disciples. Jésus-Christ ne nous a pas appelés à former les fanatiques. Il nous a dit, hein, allez faire de toutes les nations les disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. C'est très important. La différence vient de là. Vous pouvez appeler tout le monde chrétien, mais tout le monde ne l'est pas. Il y a un problème aussi de maturité. Il y a un problème de maturité. Hein? Les temps d'accepter le Seigneur, les temps de croître, les temps de connaître son appel, les temps de comprendre à quoi on est utile, les temps de comprendre les besoins des leadership et les leaders serviteurs, les temps de résoudre tous les problèmes émotionnels et d'être un leader qui base ses convictions dans la vérité, qui puise tout dans la vérité. C'est un processus, vous n'en trouverez pas nombre. C'est tout à fait normal. Donc les problèmes deviennent maintenant au point de discerner qui sont les hommes solutions, qui sont les hommes porteurs des grâces et comment les placer et comment les protéger. Pour ce qui est de l'Église d'une manière générale, dans ma lecture, je pense que l'Église joue son rôle, mais il y a un problème, effectivement, il y a beaucoup de brebis égarées, il y a beaucoup de choses à dire, mais d'une manière générale, l'Église a encore sa place, l'Église doit jouer son rôle. Rappelez-vous l'acte que le président de la République a posé en 2019 en confiant les pays entre les mains de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas un acte anodin.
Mais on a l'impression que depuis lors, les choses vont de mal en pis.
Ah, ça, c'est l'impression. Heureusement, vous dites que vous avez l'impression. Qu'est-ce qui se passe si vous jetez la lumière dans les ténèbres? Vous trouvez un chaos. Tout est ténébré. Vous connaissez les œuvres des ténèbres quand vous lisez dans Éphésiens 5. Les œuvres des ténèbres, la corruption, l'impudicité, l'infidélité, tout ce qui est désordre, vous jetez la lumière. Dès que vous jetez la lumière, ça veut dire quoi? Chacun commence à se voir. Oh, moi j'étais comme ça. J'étais sale comme ça. C'est un processus qui prend du temps. C'est grâce à ça, d'ailleurs, que nous découvrons tout ce qui se passe aujourd'hui. Même la guerre de l'Est. Ça fait partie de la lumière qui est jetée. Et tout le monde doit comprendre maintenant les origines de ces conflits, d'où ça vient, comment. C'est le temps, justement, de remettre les nouvelles bases. Puisque maintenant, Jésus-Christ jette la lumière, tout ce qui était caché, tout ce qui tirait des ficelles à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais tout devient apparent. Hein? C'est là où aussi l'Église doit intervenir. Ok, maintenant que nous connaissons la vérité, mettons les nouvelles bases, et plaçons les hommes crédibles, ne recommençons plus avec les antivaleurs.
Vous avez cette structure RTIF où vous parlez beaucoup de la famille. Pourquoi cet accent sur la famille?
Je mets l'accent sur la famille parce que la crise actuelle est sur le plan mondial a comme base aussi la négligence de la famille. Le monde entier fait tout pour que le terme famille, le terme père, le terme papa, maman puissent disparaître. Vous connaissez le système? On est parti de la théorie de l'évolution pour passer de la théorie maintenant des transgenres. Après les genres, maintenant on passe dans les transespèces.
Qu'est-ce que la famille peut apporter dans le cas de la RDC? Comment la famille peut impulser ce développement?
L'éducation commence par la famille. Je dis bien la vraie éducation. Quand tu vois bien, tous les héros qui ont relevé les rangs des filles viennent de la famille. David a été choisi dans la famille. À 17 ans, il a relevé les rangs des filles face à Goliath. Si chacun de nous aujourd'hui prend la responsabilité de bien former ses enfants, du point de vue éducation, vous dites aux enfants, l'environnement doit être propre. Vous dites aux enfants, il ne faut pas cracher dans la rue, il ne faut pas
jeter
les ordures de n'importe quelle manière. Vous dites aux enfants, la poubelle existe. Vous dites aux enfants, il y a le respect des parents, il y a aussi le respect des voix, papa, voisins, le respect des mamans.
Des biens vous, communs, ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas.
Ça s'apprend d'abord dans la famille, du point de vue éducation. Vous dites aussi aux enfants comment bien gérer. Vous dites aux enfants la corruption mauvaise. Vous dites aux enfants comment respecter les biens communs et vous mettez dans la tête des enfants l'intérêt collectif. L'intérêt collectif que chacun de vous est bénédiction pour la nation. Chacun de vous peut se sacrifier pour la nation. Chacun de vous peut apporter le meilleur qu'il a et mettre ça à la disposition de la nation. Que chaque famille se prépare pour mettre à la disposition de la nation des hommes solutions. Pour moi, c'est la famille qui doit jouer pleinement ses rôles. Tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui, à l'horizon 2050-2060, il est grand temps pour nous, surtout vous de votre génération et les jeunes gens qui se marient aujourd'hui, nous devons bien éduquer ces nos enfants-là qui se marient maintenant, de telle manière qu'eux préparent leurs enfants qui naissent aujourd'hui avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle discipline, avec une organisation particulière. Et ils mettent en place aussi un système éducatif qui les prépare à faire face aux défis de 2050 et aux défis de 2060. Donc la gestion prévisionnelle commence justement par ces statistiques de savoir combien de garçons naissent aujourd'hui, combien de filles naissent aujourd'hui et quel serait leur métier en 2050 et avec tout ce qui est interférence de l'intelligence artificielle. Ne négligeons pas ça avec tout ce qui est technologie moderne. Mais les enfants en 2025 ne seront pas les universitaires d'aujourd'hui. Et les familles déjà peuvent s'organiser, bien que nous vivons encore le chaos de corruption dans les universités, dans les systèmes actuels, mais si l'enfant aujourd'hui, dès le sein maternel, est pris en charge avec une perspective d'éducation partant de ses propres parents, moi je pense qu'en 2025, nous aurons des jeunes gens capables d'aller au front et de protéger nos frontières. Nous aurons des jeunes gens capables de ne pas trahir le pays. Nous aurons des jeunes gens capables de se sacrifier pour le pays. Nous sommes une génération qui n'accepte pas le sacrifice pour le pays. Formons les jeunes gens qui vont se sacrifier pour le pays. Formons les jeunes gens qui vont développer le pays. Formons surtout les jeunes gens qui ne vont pas trembler devant les milliers, alors que Dieu a mis dans notre pays des milliards en potentiel. Donc ce qui fait défaut, nous n'avons pas des gestionnaires des milliards. Nous avons des gens qui tremblent devant 100 dollars, 1000 dollars, des milliers d'euros. Ça, Dieu me l'a dit. J'étais dans un pays africain, en retraite, avec ma femme. J'ai vu de l'ordre qui était là, la discipline qui était là. Un pays pauvre, très bien organisé, et les gens avaient la tête sur les deux épaules. Nous nous posons, mais nous avons tout, mais qu'est-ce qui se passe? La nuit, Dieu me dira, je vous ai tout donné. Mais vous ne voulez pas. Alors il m'a dit encore, le leadership c'est quoi? Le leader c'est celui qui est capable de contraindre les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Vous manquez à tous les niveaux, les directeurs, les chefs de division, capables de contraindre les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Et vous manquez deuxièmement la discipline. La discipline c'est quoi? La discipline, c'est la capacité de faire régulièrement ce qu'on doit faire. C'est ce qui amène les résultats. Nous n'avons pas la gestion axée sur les résultats. Pourquoi? Le manque de discipline. Et partant de ça, si nous n'avons pas une génération qui a compris ça, nous n'aurons pas les entreprises qui vont fabriquer les avions, nous n'aurons pas les chaînes de fabrication des véhicules. Comment on va importer des tracteurs pour faire les champs et nous n'en fabriquons pas?
Radio Capi, Grand Témoin.
Mesdames et messieurs, si vous venez de prendre cette émission en cours, sachez que Grand Témoin reçoit aujourd'hui le révérend pasteur Hubert Mimimouawa Lumingu, ancien directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sona Hydroc, ancien directeur général du Bureau d'études techniques des constructions GCT. Actuellement, il est administrateur des studios Sangomalamu, radio et télévision. C'est une association sans but lucratif et il est président international du réseau de transformation et d'intercession pour les familles, RTIF en sigle. Alors, puisque vous parlez de la formation, on va voir votre formation. 64 à 71, certificat d'études primaires à l'Institut Saint-François-Xavier de Kikwit. 71-72, diplôme d'état de technicien A2 en mécanique générale à l'Institut technique de Kikwit. 75-76, certificat de la pré-polytechnique université de Kinshasa. 79-85, diplôme d'ingénieur civil, faculté polytechnique, option génie industriel à l'université de Lubumbashi. Révérend Hubert Mihimi, vous êtes polyglotte, vous parlez les quatre langues nationales, vous parlez l'anglais, le français. Qu'est-ce qu'on peut considérer dans votre enfance comme le plus bon et le plus mauvais souvenir?
Les plus bons souvenirs, je vois un peu comment mon papa a travaillé. Il était inspecteur technique dans la compagnie du Kasaï et de l'Équateur. J'ai voyagé avec lui du Kasaï jusqu'à l'Équateur, dans les Bandundu, partout il partait pour les usines. Il maintenait les usines de production de noix de palme et il était spécialiste de moteurs Mercedes. Partant de ça, j'ai tenu à faire la mécanique jusqu'à aller à l'école technique. Okay. Les ITC. Partant de ça, j'ai tenu à faire la polytechnique dans l'objectif de les remplacer. Ce que je regrette, il est mort, je n'ai pas pu les remplacer. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu continuité. Autant d'usines qui faisaient la fierté du pays, où le pays était le premier producteur d'huile de palme, et aujourd'hui nous ne sommes pas derniers producteurs.
Sont en faillite aujourd'hui.
Toutes ces sociétés sont en faillite. Alors pourquoi nous avons étudié? C'est ça la question. Et je ne vais pas laisser ces chaos à mes enfants. C'est là où je dis, nous devons travailler de telle manière que nous laissons le meilleur aux générations futures.
Alors quel type d'enfant avez-vous été?
Un enfant poli, obéissant par rapport aux autres. C'est ce que ma mère me disait souvent. J'étais un peu différent des autres enfants. Ce qui fait que rapidement, quand je me suis retrouvé entre les mains des pères jésuites à l'internat au collège, je me suis adapté rapidement et j'avais une vision de tout ce que je pouvais devenir.
Tout
en partant de ce que j'ai vu de mon père et les cadres de formation dans lesquels il m'a mis avec les jésuites, j'ai vu la discipline qui me convenait pour devenir ce que mon père était, puisque mon père était de la génération de ceux qui ont remplacé les berges.
Tout à fait.
Voilà, j'avais cette conscience. Surtout quand je me suis converti en 1979, ça a renforcé encore cette conviction de bien faire une culture d'excellence. En tout cas, je ne suis pas de nature à beaucoup, disons, banaliser les choses, si pas... Je ne suis pas de nature de vulgarité, non. J'aime être sérieux, j'aime me concentrer, j'aime écrire, j'aime écrire mes livres.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé du plus bon souvenir et le mauvais souvenir. C'est que vous considérez comme le plus mauvais souvenir de votre enfance?
Le plus mauvais souvenir de mon enfance, c'est quand j'allais mourir.
Ah bon, dans quelles circonstances?
J'étais à l'internat avec le père Lolite, pendant aux heures de 16 heures, on jouait au football. Et j'étais gardien de but. J'ai capté un tir fumant, et puis je suis tombé. Au sein de moi, il y avait l'appendicite qui s'est éclatée.
Oh là là.
C'était déjà, c'était perforé quoi.
Mm-hmm.
Et je ne savais pas. Ce soir-là, je me suis lavé, je suis allé dormir, et le matin, je ne pouvais pas me réveiller. Les prêtres venus pensaient que c'était les palus. Mon père, c'était le père. On m'a soigné avec des aspirines et tout ça. Ça fait 3 jours. Imaginez ces liquides-là.
Oui, oui,
qui
oui.
Commençaient à... Ça fait pourrir les intestins en bas là-bas. Tous les gros intestins. Et le ventre
ballonné.
Et puis, on m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, le docteur a dit... C'est inutile, il doit mourir dans 3 jours puisque tout est pourri. On a fait venir mon père en urgence. Mon père a payé son billet rapidement, il est venu et puis on lui a dit voilà, nous sommes obligés de te dire que dans 3 jours ton fils meurt, mais c'est à toi de faire le choix, soit c'est le ventre reste comme ça, le cercueil sera difforme, ou on opère pour vider tous les gaz. Et couper un peu tout ce qui est décomposé comme intestin. Alors, en pleurant, et ma mère aussi pleurait, ils ont choisi d'opérer pour les raisons d'esthétique.
Dans le cercueil.
Pour le problème d'enterrement.
Et ça vous a sauvé la vie.
Ils ont fait leur travail. On avait opéré comme ça. Et ma mère pleurait. Et on a fait venir tous mes collègues de la classe. J'étais en deuxième secondaire.
Pour un dernier au revoir.
Oui, ils m'ont dit au revoir. Au revoir. Il y en a qui pleuraient. Et moi, ça ne me disait rien. Et 3 jours après, j'ai demandé de l'eau. On ne soignait pas cette plaie, on n'avait pas mis, puisque la peau était décomposée, on mettait seulement les daquins. On ne mettait même pas les antibiotiques, on attendait que je meure. Et ma mère est allée dire à une sœur, la sœur s'appelait Parmi, une italienne, qu'il demande de l'eau. La sœur est allée voir le médecin lui dit, écoute, peut-être c'est les derniers.
Le dernier verre.
Alors, quand on m'a donné de l'eau, je ne suis pas mort.
Wow.
J'étais vivant. Et on a vu que la peau qui était blanche était devenue rouge.
Wow.
On a commencé à me donner des antibiotiques. Et je ne sais pas ce que Dieu a fait. La réalité que je suis vivant.
Wow.
J'ai repris mes cours 3 mois après. La cicatrisation aussi a disparu. C'était devenu comme une intervention chirurgicale d'esthétique.
Wow.
J'ai tout remis, j'ai repris à jouer au football. voilà. C'était un mauvais souvenir, mais en même temps...
Un véritable miracle.
Un véritable témoignage. C'est là où j'ai dit, moi je sers Dieu par reconnaissance. Si je n'aime pas les blagues, je n'aime pas la corruption, je n'aime pas... J'ai l'impression que si je me fais vautrer dans les péchés, il va retirer le souffle de vie. J'ai toujours cette impression-là. Il m'a laissé en vie pour le servir et je dois être sérieux dans tout ce qu'il a fait.
Alors, quelques noms d'amis d'enfance qui vous reviennent encore?
Oh, il y a Popol Bemba à Lubumbashi. Celui-là, c'est vraiment un véritable ami. Je l'ai salué aussi en passant. Il y a beaucoup qui sont morts, hein, ou qui sont morts. Même ceux de l'université, ou quoi, je ne sais pas.
Oui, par exemple, des noms qui vous reviennent comme ça.
Ici, à l'université, j'ai connu les Jean-Tenek Mbembe.
Mazunga. Ancien gouverneur de Kinshasa.
Le Ngalassi.
Le pasteur.
Le pasteur, il était notre commandant de brigade. On l'appelait Brigabouf. Qui je peux me rappeler encore, il y a le Star Mamboma, je peux me rappeler de Boukassa.
Voilà, ils sont nombreux. Alors, vous êtes marié à maman Marceline Galoula, que nous saluons en passant, et père de 6 enfants. Je vais vous faire écouter quelque chose et on va suivre ensemble.
Bonjour, je me nomme Pasteur Esther Mimi, la fille du révérend Hubert Mimi. Je suis cinquième sur six, et dont 3 filles et 3 garçons. S'il faudrait que je parle de mon père, je commencerai par dire que nous avons l'avantage d'avoir à la fois un père et un repère. Ce n'est pas très facile pour moi de parler en si peu de temps de quelqu'un qu'on connaît depuis plus d'une trentaine d'années pour la plupart de mes frères. Néanmoins, je commencerai par rendre grâce à Dieu de nous l'avoir donné comme père. Certes, il a occupé plusieurs casquettes dans la société et dans l'Église, et il reste une figure importante pour plusieurs générations et un modèle dans son leadership. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est un homme très humble, mais extrêmement intelligent et travailleur. Il est rempli d'expérience professionnelle. J'ai souvent du mal à finir de dire son énorme et long CV. Et en tant que père, il nous a formés comme dans une armée. Il a su découvrir dès notre jeune âge les potentialités de tout un chacun et s'est investi à nous pousser à maximiser du temps dans l'exercice et l'exploitation de nos dons et nos talents. Je dirais d'ailleurs qu'il nous a plus encouragés, nous, les femmes, à travailler durement, à être autonomes, mes sœurs et moi. Et il nous a élevés en nous rappelant toujours le plus important, c'est que nous soyons responsables vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la société. Au-delà de tout, il s'est rassuré que nous ayons le salut. Il nous a parlé du Seigneur dès notre jeune âge. Je suis heureuse que dans ma famille, tout le monde ait pris la décision de donner sa vie au Seigneur comme le plus tôt possible d'ailleurs. Je crois que je vais m'arrêter là.
C'est Titi?
Non, c'est Esther.
Ah, voilà, la voix ressemble à sa sœur aînée. Esther.
Alors, je vous ai vu très ému.
Pratiquement, elle a résumé ce que nous venons de dire.
Vraiment.
Elle a résumé ce que nous venons
de dire. Et qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce genre de témoignage de votre propre enfant?
Vous savez, faire des disciples partant de sa propre famille, c'est un grand défi. Surtout pour les enfants des pasteurs. Je suis très content, ça me laisse rouler les larmes de voir qu'au moins, tous mes enfants ont reçu l'opportunité de connaître Dieu, ont reçu la grâce d'être compétents, et ont reçu aussi la grâce de se mettre au service des autres d'une manière intègre. Donc, j'ai mis en place dans la société, par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes crédibles. Là, je pense que je suis content.
Alors, s'il vous était demandé qu'on vous propose une chanson, ce serait laquelle?
Comment expliquer?
Ah, comment expliquer?
Comment expliquer?
Ah oui.
D'accord. À Dieu, dans le fond de mon cœur, dire merci à Dieu.
Tout à fait.
Je manque des mots pour lui dire merci. Tout à fait. Qu'il accepte seulement les cris de mon cœur.
Vraiment. J'allais dire amen.
Comment expliquer c'est mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur. L'esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime.
Révérend Hubert Mihimi, cette émission est en train de toucher à sa fin. Un mot pour terminer à l'endroit de tous ces millions de Congolais qui vous suivent à travers les provinces et à travers le monde. Un mot d'espoir. Aujourd'hui, voyez le Congo dans le gouffre. Est-ce que ce pays s'en sortira? Qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes qui vous entendent et qui espèrent un Congo meilleur demain?
Le pays, un grand pays, beau pays, riche, nous appartient. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Que les jeunes qui nous suivent prennent conscience. Donc, nous devons, nous les aînés, bâtir la conscience collective, les aider à s'approprier de leur pays en étant conscients de toutes les responsabilités qui les attendent et des grands défis à relever par leur génération. Ça, c'est la première des choses que je peux leur demander. Qu'ils ne soient pas comme notre génération qui a accepté la facilité, mais qu'ils travaillent, c'est le travail qui crée le bonheur, qu'ils deviennent créatifs, qu'ils aient un esprit d'initiative nourrie, qu'ils n'étudient pas pour aller demander du travail, pour chercher du travail avec des lettres de demande d'emploi, qu'ils étudient pour créer l'emploi. Je crois que avec un peu d'abnégation, avec un peu de sacrifice, avec un peu de discipline, ils bâtiront un pays meilleur. Moi, je crois que mon souhait est qu'avant que Dieu me rappelle, je puisse voir un peu ce que le pays peut devenir si réellement il mettait en pratique tout ce que nous venons de dire ici. Je crois à un avenir meilleur, je crois à un pays béni, je crois que toutes les promesses que Dieu a faites dans ce pays s'accomplira. Je sais que ce pays lui a été remis, et je répète encore, le 23 juin 2019, ce pays a été remis entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un problème d'une génération, c'est un problème des générations. Je suis convaincu que leur génération verra le meilleur de ce pays. Les épreuves que nous traversons aujourd'hui, ce sont les épreuves qui doivent nous amener à la maturité et non les épreuves qui doivent nous décourager. Au contraire, les épreuves doivent nous inciter à abandonner tout ce qui nous amène là et nous pousser à progresser avec les meilleurs que Dieu a mis à leur disposition. Voilà.
Révérend pasteur Hubert Miyimi, merci de nous avoir reçus dans votre beau bureau.
C'est à moi de vous dire grand merci. Vous avez accepté quand même d'approcher cet homme qui n'aime pas souvent s'ouvrir. Et là, bravo à vous. Vous avez l'une des émissions que je n'ai jamais fait.
Merci infiniment. Mesdames et messieurs, grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, Alain Héroumouchich, à la technique, ça veut dire à la caméra, à la prise de son, Paul Badianyama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Vous le savez, vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et plusieurs autres numéros de grand témoin en allant sur www.radioocapi.net ou sur toutes nos plateformes digitales. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir.